Assalamu alaikum, bienvenue à toi, c'est Kautar, tu es dans ton podcast Maman Lideuse, le podcast où la parentalité et la spiritualité fusionnent pour t'éclairer dans ton rôle de maman lideuse, inshallah, après cette petite pause d'une semaine. Sans podcast, on continue notre liste de clés, ces fameuses clés, pour gagner en leadership parental, pour gagner en leadership, en autorité et devenir, inshallah, cette maman lideuse, binillah et spirituelle. Je rappelle rapidement les précédentes clés qu'on a citées, travaillées, énumérées ensemble dans les podcasts précédents. Je vous mettrai un petit quiz à la fin ou en story ou sur Telegram pour voir celles qui suivent et qui sont assidues dans les podcasts. On rappelle que la première clé, c'était d'écouter cette petite voix quand on apprend à dire oui, finalement, apprendre à dire oui à soi pour pouvoir dire non à l'enfant. Et je vous invite à réécouter vraiment cette série-là pour pouvoir comprendre la continuité des autres clés que je vais encore vous présenter les semaines qui arrivent. Deuxième, c'est comprendre qu'est-ce que c'est aimer. Est-ce que aimer, c'est tout permettre? Non, bien évidemment. Donc, dans ce deuxième podcast-là, je vous explique en quoi aimer et l'amour, comment l'amour doit être finalement encadré, orienté dans notre éducation pour pas qu'elle vienne jouer contre notre faveur quelque part. La patience, savoir doser la patience, à quel moment on est en train de patienter, à quel moment on est en train de subir les comportements non désirables de nos enfants. Ensuite, la compassion aussi bien dosée, à quel moment on est dans un excès, on est en train de prendre plus que ce qu'il ne faut, à quel moment on prend trop de place, où cette compassion prend trop de place, et du fait, elle devient contre-productive, elle ne nous aide pas à éduquer nos enfants. Et enfin, la clé d'aujourd'hui que je vais vous délivrer, bi'inillah, mais avant tout, j'en profite pour vous souhaiter un bon Ramadan, Ramadan Mubarak, qu'Allah accepte notre jeûne de prière, bi'inillah, qui nous permette de faire partie de ceux qui seront sauvés du feu de l'enfer et qui feront partie, inshallah, des gens du paradis, bi'inillah, qu'Allah fasse que on puisse dès ce mois-là, inshallah, réserver, bloquer notre place au paradis, inshallah, et faire partie de ceux qui auront été sauvés de l'enfer, inshallah, ya Rab. La clé d'aujourd'hui, donc on a la cinquième clé sur sept, prendre soin de l'enfant, ce n'est pas prendre en charge ou prendre plus que notre capacité. Finalement, ça revient encore une fois à ce verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « La yukallifu Allah nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana » Alors, nous voici au cœur d'une problématique, pour ne pas dire d'un drame, qui se déroule clairement sous nos yeux au quotidien, qui est cette surprotection. On parle d'hypersensibilité, mais on parle aussi d'hyperparentalité. C'est un terme très commun, vous pouvez même trouver des livres, il y a un livre qui est intitulé « L'hyperparentalité », qui vient justement mettre l'accent sur ces expressions aussi « maman poule »,« papa poule », etc., qui prennent finalement tout leur sens dans ce contexte-là. On entend bien que c'est tout à fait normal, même naturel, spontané et logique, en fait, de vouloir protéger son enfant des dangers. On est d'accord sur ça, bien évidemment. Ça devient problématique si on ne laisse plus l'enfant faire ses propres erreurs et se cogner quelque part à la vie, se prendre des échecs, en fait, se prendre des noms, se prendre des rejets, se prendre des épreuves, entre guillemets, durant sa vie, d'enfant, de jeune adulte ou d'adulte, d'accord ? Prendre soin de l'enfant, prendre soin d'un être, c'est veiller à son sommeil, à sa nourriture, son bien-être affectif, en fonction de ses besoins, en fonction de son âge, et ça implique bien évidemment une certaine connaissance pour savoir prendre connaissance des besoins de l'enfant en fonction de son âge, c'est essentiel. Prendre soin, c'est aussi et surtout aider l'enfant à vivre ce qu'il a à vivre. Et ça, c'est important. C'est pas tenter de lui faire économiser une souffrance, une difficulté sur son chemin en la prenant à notre charge. Donc, je vais lui éviter, pour pas qu'il se retrouve dans cette situation-là, je vais anticiper et je vais faire ça à sa place. Dire que quand c'est une question de danger, on est d'accord. Je vais le mettre en sécurité pour pas qu'il tombe, pour pas qu'il se fasse mal, pour pas qu'il se brûle. On est d'accord. Par contre, il y a des choses, parfois, on en arrive à éviter des émotions, éviter des frustrations, éviter des difficultés, éviter que l'enfant patiente. Je ne voudrais pas qu'il attende trop longtemps. Il va avoir trop faim. Il ne pourra pas patienter. Ça va le fâcher. Il ne va pas être content. Il va me faire une crise. Tout ça, quand on est beaucoup dans ce jargon-là, c'est qu'on est en train inconsciemment d'économiser des souffrances sur le chemin de nos enfants. Et au contraire, prendre soin, c'est l'aider à entrer en fait, dans sa difficulté, à plonger dedans, pour pouvoir en sortir avec la conscience que personne d'autre ne peut le faire que lui et personne ne doit le faire en dehors de lui. C'est-à-dire que quand il va conscientiser que c'est à lui, en fait, c'est lui qui vit cette difficulté, c'est à lui de chercher comment s'en sortir. Là, on aura aidé nos enfants, parce que quand on ne sera pas là, ils vont pas dire « Ah, mais comment je fais, maman, elle n'est pas là, papa, il n'est pas là. » Allah, il est là. C'est ça qu'on doit conscientiser. Et ça, c'est une clé vraiment importante, c'est que quand on prend conscience qu'il n'y a qu'Allah Azzawajal et moi qui peut le faire par rapport à certaines situations, ça ne veut pas dire qu'il n'a plus besoin de nous, mais si on l'entraîne avec ce processus-là, cette façon d'être, cette façon de penser, c'est une clé très, très, très importante. Comme tout le monde, j'ai mis moi aussi un certain temps à l'intégrer et ça revient très vite. Et c'est vrai que c'est un travail de tous les jours, comme je dis. C'est un terme qui revient tout le temps, vous allez rire, mais pour mes élèves, parce que c'est conscientisé, pour pouvoir l'appliquer dans ma propre vie, voir ces enfants malheureux, tristes, remplis de colère, dans des situations où on pourrait intervenir facilement pour les alléger, et voir un sourire sur leur visage, c'est pas facile. Mais quand on comprend les conséquences qu'il y a derrière et les effets aussi désirables et indésirables que ça peut avoir, vraiment l'épanouissement de nos enfants, il en dépend. Quand on comprend que on n'en est pas dans... Alors je vais dans l'extrême pour être sûr que vous ne prenez pas les choses dans l'extrême, c'est-à-dire que je ne vous dis pas qu'il faut être dans « débrouille-toi et tu reviendras quand tu auras trouvé ta solution », non. Mais prendre soin, c'est avoir confiance en la capacité de notre enfant, adolescent, à s'en sortir. Et ça suppose que nous, parents, ou mamans particulièrement aujourd'hui, on ait acquis cette confiance et cette estime de nous-mêmes. Et c'est là où on parle de notre iceberg à nous, du travail qu'on a à faire sur nous. C'est pour ça que beaucoup on appelle, je dis bien que je vois ces problématiques dans les appels, je vois qu'il y a un travail à faire avec l'enfant, mais on ne peut pas le faire si on ne passe pas par nous-mêmes. En l'occurrence, ça veut dire que si je veux que mon fils ait confiance en lui, qu'il ait une bonne estime de lui, que je ne cherche pas à l'aider, le sauver pour qu'il sente qu'il est capable de faire, il faut que moi-même, j'ai un travail à faire sur moi. Où est-ce que j'en suis avec ma confiance? Où est-ce que j'en suis avec mon estime, avec l'estime de moi-même, votre estime de vous-même? Et on en reparlera, Inch'Allah, dans d'autres podcasts. Prendre soin, c'est donc être à l'écoute des besoins physiologiques et affectif de l'enfant, sans être tenté de faire les choses à sa place, parce que dans notre tête de parent, ce qui se passe, c'est, en fait, ça irait tellement plus vite si je faisais ça à sa place. Si c'est moi qui décidais de ça, si c'est moi qui intervenais là, si c'est moi qui lui dis quoi faire, si c'est moi qui lui dis comment faire, ça irait tellement plus vite. Si c'était moi qui rangeais sa chambre, si c'était moi qui débarrassais la table, si c'était moi qui étendais le linge. Et je le sais, je suis maman, je suis face à des enfants qui ont les mêmes réactions et les mêmes émotions que les vôtres. Et je sais que c'est dur au quotidien. Mais je vous assure qu'en tenant tête et en conscientisant que ça ira certainement plus vite si j'interviens, mais ça sera beaucoup plus long par la suite. Pour moi, est beaucoup plus difficile et les mamans qui ont des enfants adolescents peuvent encore une fois en témoigner. C'est-à-dire que Toute action lente ou fastidieuse ou difficile pour un enfant, comme ça commence par rien, ça commence par des enfants pour que toutes les mamans se sentent concernées, d'un enfant qui fait ses lacets, un enfant qui n'arrive pas à ranger un jeu de cartes, un enfant qui n'arrive pas à tracer un trait, qui n'arrive pas à faire son triangle rectangle, qui n'arrive pas à faire un cercle compas, toutes ces choses-là, qui n'arrive pas à gommer. Je vous donne toutes ces scènes qui reviennent avec mes propres enfants. Un enfant qui se fâche pour ça. Non, mais moi, quand je gomme, la feuille, elle s'abîme. Non, moi, quand j'écris avec le stylo, ça fait plein d'encre. Non, mais moi... Et qu'on dit, attends, je vais gommer à ta place. Attends, je vais effacer. Attends, voilà comment tu traces un trait. Voilà. Tout ça. on se dit que ça va aller plus vite forcément. Et trier son linge ou encore faire son sac d'école, faire son sac de piscine, pour pas être... Tout ça, toutes ces petites choses-là qu'on est là, on accessoirise et on est là un peu partout et on est très fatigué d'ailleurs après parce qu'on en a 2, 3, 4 ou 5, inchallah en plus. Et aussi, c'est l'idée de se dire, inconsciemment, il serait moins chagriné si je résolvais cette problématique avec ses amis ou ce challenge qu'il a ou ce conflit qu'il a avec sa sœur ou son frère ou son cousin. Ou... Mais stop. Il faut vraiment que on le laisse aller à son rythme, qu'on le laisse se tromper, qu'on le laisse râler quelque part, chouiner. Et je le dis tout le temps à mes élèves. Voilà ce qu'il faut faire. Je leur donne des challenges. Voilà ce que tu vas mettre en place avec tes enfants, etc. Le cadre, etc. On travaille ça ensemble. Et après, je leur dis tout le temps, attention, ils ne vont pas être contents. Ils vont pleurer. Ils vont chouiner. Ils vont vous dire non. Mais là, on est au courant. On sait que ça va se passer comme ça. Donc, on va le laisser faire. On n'est pas étonné de voir un enfant qui pleure face à un panier de linge, face à un lave-vaisselle ou à une vaisselle, face à un évier ou face... On ne sera plus étonné parce qu'on sait pourquoi on le fait et on sait qu'est-ce qu'on va chercher derrière. Donc on lui laisse du temps pour apprendre, même en grognant, même en pleurant, même en boudant, on met le cadre, c'est-à-dire tu n'as pas le droit d'insulter, tu n'as pas le droit de hausser le ton sur ta mère, de manquer de respect. T'es pas content, c'est un choix. Maintenant il y a un cadre, il y a des limites. Voilà le cadre, voilà la limite. Pas d'insulte, pas de grossièreté, pas de violence, pas de. Mais tu peux le faire en grognant, tu peux le faire en... C'est ok. Moi, je sais que... je sais ce que je vais chercher derrière. On peut avoir des enfants qui sont très, très, très dans la lune, très rêveurs, qui oublient souvent, par exemple, leurs affaires. Ça, c'est des cas très, très récurrents. C'est les affaires de sport. Et d'ailleurs, il y avait une maman, une fois, qui avait partagé ça sur Instagram. Elle disait, voilà, c'est un enfant qui oublie souvent son goûter, même son cartable, parfois. Et c'est une maman qui disait que elle a toujours couru après lui dans la rue pour lui dire qu'il était parti sans son sac ou sans son goûter ou parfois il y a des mamans qui dernièrement il me disait voilà elle est repartie parce qu'elle a imaginé la scène de l'enfant face à sa maîtresse qui lui dit mais il est où ton cahier d'école, enfin c'est des scènes qui sont très 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 redondantes, je pense que vous l'avez toutes vécues. Où voilà, on se projette à la place de l'enfant, on se dit ah, miskin, la maîtresse, ça va lui faire une remarque. Ah, mais il est parti sans son goûter. Ah, et pourtant, on l'a dit, prépare ton sac, on a peut-être même préparé le sac avec lui, on a posé le sac près de la porte, on lui a dit, tu n'oublieras pas ton sac, attention, je t'ai dit, ah, si tu l'oublies, moi je ne te le ramène pas. Hein. Alors, ça, cette fameuse phrase de si tu l'oublies, je ne te le ramène pas, ne compte pas sur moi pour te le ramener. L'enfant, il sait pertinemment que c'est le contraire. Il sait comme si je l'oublie, maman, elle va le ramener, puisque au fond, on sait que ce n'est pas bon de le ramener. De courir après pour rattraper les enfants parce qu'ils ont oublié ça, puisqu'on est fâché quand on le dit, quand on le rappelle dans la voiture parce qu'il a oublié son sac, quand on rappelle le papa pour dire il faut remonter, il a pas pris son sac, on n'est pas heureuse quand on le fait. Parce que c'est frustrant de dire, même dans ça, il faut être là. Quoi. Et on sait qu'au fond, on n'est pas aligné avec ça. Mais on le fait. On le fait et on est fâché, mais on le fait. Ça revient à cette première clé de écouter sa petite voix. Donc, on peut, dans cette situation-là, cette maman-là qui dit que, voilà, un jour, elle décide de procéder autrement. Donc, c'était un enfant qui était quand même en CM1. Donc, ça, c'était une histoire relatée. Et elle dit, il est parti de la maison sans son cartable. Elle le voit partir sans son cartable et elle ne dit rien. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que prendre soin, ce n'est pas réagir tout de suite. Je peux lui dire... Ton sac. Ah, t'as rien oublié ? Cette fameuse phrase, t'as rien oublié ? Donc ça, c'est ok, hein, on va le faire. Mais quand j'ai un objectif un peu plus loin, quand je vois que c'est un comportement que l'enfant a tout le temps, il oublie son sac, son goûter, il oublie son bonnet, son tour de cou, à chaque fois qu'il va quelque part, il laisse des affaires, on comprend qu'il y a une compétence là qui n'est pas acquise chez l'enfant, qui n'est pas maîtrisée, et il faut que je l'entraîne pour ça. D'accord ? Occasionnellement, un enfant qui est plutôt conscient, qui est plutôt organisé ou qui est plutôt responsable de ses affaires, il va très vite, si je vois qu'il voilà, il a oublié exceptionnellement, je dis attention, t'as pas oublié quelque chose ? Ah oui, mon sac, merci maman. Par contre, quand c'est tout le temps, en fait, c'est systématique, l'enfant, il attend presque la phrase. C'est-à-dire qu'il ne pense pas à prendre son sac, on en arrive vraiment à là tant que je ne lui ai pas dit. Et nous, ça devient fatigant pour nous en tant que mère. Et donc, ça n'aide pas dans la relation. Donc, elle dit, je l'ai vu, je n'ai rien dit, je n'ai pas réagi. Et je lui ai dit, au revoir, comme si de rien n'était. Parce qu'au final, tant qu'il n'a pas senti, c'est qu'il n'est pas conscient qu'il y a quelque chose. Il n'a toujours pas compris qu'il fallait partir avec son sac. C'est un peu ça l'idée. Il faut vraiment pousser le truc, c'est ça. Donc, imaginez la scène et vous mettez à la place de cette maman-là. C'est facile ou c'est difficile? C'est difficile. Imaginez cette... On peut anticiper en fait la réaction catastrophée en arrivant à l'école sans son sac et on se dit, ouais, c'est l'horreur, mon pauvre chéri, voilà, il va être très mal, il va être mal à l'aise. Et en fait, c'est là où je vous parle de l'estime, de la confiance qu'on a de nous-mêmes qui vient faire surface ici. En tant que maîtresse, c'est encore plus difficile parce qu'on peut se mettre à la place de la maîtresse et dire, non, mais c'est pas pour l'enfant, c'est pour la maîtresse parce qu'après, ça la bloque, après, elle a l'impression que voilà, elle doit refaire tout le double travail, il faut qu'elle m'envoie les devoirs. Et on imagine même l'agacement de comme elle disait, de la maîtresse que ça pourrait provoquer chez cette enseignante-là. Parce qu'au final, on se dit, franchement, c'est même pas pour lui, c'est pour son père. C'est même pas pour lui, c'est pour la maîtresse. C'est même pas pour lui, c'est pour la personne qui va vivre cette situation-là, de devoir gérer un enfant qui n'est pas bien parce qu'il a oublié ses affaires. Tu vois, on va prendre au-delà de l'émotion de l'enfant, on va même prendre celle de l'adulte qui va faire face à ça. Et en tant que maîtresse, oui, ça va être difficile pour elle de gérer ça. Et donc, elle dit qu'elle se sentait très mal, très coupable, mais elle dit avoir tenu. Et depuis cet événement-là, donc toute cette scène qui s'est passée, eh ben, il n'a pas oublié son sac. Et elle dit pas que, on ne dit pas que cet enfant il ne sera plus jamais étourdi, que ça va s'arrêter, mais c'est une expérience qui a donné une intensité émotionnelle ou une émotion, une prise de conscience. On a compris qu'est-ce qu'on gagnait quand on prenait un sac et on a compris qu'est-ce qu'on pouvait ressentir et quelles conséquences ça pouvait engendrer sur le comportement de la maîtresse, sur la réaction de la maîtresse, sur mon déroulement en classe, etc., sur mon travail, quand j'oublie un sac. C'est ça qu'on doit transmettre. Et c'est là où on est gagnant. Donc, c'est un grand pas, comme pour l'enfant, que pour la mère, pardon. Donc, force est de constater que lui rappeler sans cesse de prendre ses affaires, ou courir après lui pour vérifier, ou réexpliquer, parce qu'à chaque fois on dit mais tu comprends pas combien de fois je t'ai dit, le sac, tu le mets devant la porte, comme ça quand tu sors, tu l'oublies pas. Combien de fois je t'ai dit, à chaque fois que tu rentres de la piscine, tu vérifies, avant d'aller à la piscine, tu vérifies que t'as bien une serviette, un shampoing, etc. Ça m'est arrivé avec mon fils qui prépare son sac de piscine, à chaque fois il oublie un shampoing. Quand il rentrait de la piscine, je sentais ses cheveux, je sentais encore le chlore, je dis mais ton shampoing, j'ai oublié le shampoing. Donc, quand on a marqué que j'ai arrêté de lui dire « n'oublie pas ton shampoing », quand il a senti qu'il arrivait une fois et qu'il n'y avait plus de dans le distributeur de shampoing dans la piscine, qu'il n'y avait pas de shampoing, que c'était désagréable, ben il a compris qu'il fallait qu'il prenne son shampoing. Maintenant, il part avec une grosse bouteille de gel douche, de shampoing, parce qu'il a été dans une situation où il n'y avait pas... Parce que moi, quand je lui disais, il comptait en fait sur le distributeur qu'il y a dans les douches de la piscine. Donc, même si je ne le prends pas, c'est OK, en fait. Mais le jour où il s'est retrouvé avec rien, le jour où il va se retrouver sans serviette et que là-bas, il n'y a pas de serviette, et qu'il va devoir mettre ses habits directement sur lui après une piscine, chose qui est très désagréable, on est d'accord, il va prendre conscience de « Ah, j'ai pris mon gel douche, j'ai pris mon rechange et j'ai pris ma serviette. » Ça va être difficile d'imaginer son fils sortir dans le froid avec les cheveux mouillés, etc. Mais c'est ça qui va le faire grandir et c'est ça qui va faire qu'on n'a pas un ado de 15 ans où on est toujours derrière lui, mais t'as même pas pris ta serviette, tu prends pas tes serviettes. Et une épouse plus tard qui nous dit non, mais il peut rien, si je lui mets pas sa serviette dans la valise, il part sans. Il sent. Vous voyez, ça va vraiment plus loin. C'est-à-dire que l'homme qu'il est aujourd'hui ou la femme qu'elle est aujourd'hui, elle sera l'adulte qu'elle sera demain. Donc, est-ce que ça va les aider? Oui, ça va les aider. De cesser de faire à sa place, ça va l'aider. Par contre, si je continue à faire à sa place, ça ne l'aide pas. Ça m'aide. C'est-à-dire que c'est très superficiel parce que la réalité, c'est que ça m'évite une certaine situation. Ça m'évite beaucoup de situations en réalité au quotidien. Mais sur du long terme, ça m'épuisera et ça sera contre-productif. Et ce n'est pas éduquer finalement l'enfant ou lui transmettre des compétences, ce n'est pas l'aider. D'accord ? Ça, c'est un peu la face cachée de l'iceberg de est-ce que ça l'a vraiment aidé ce que j'ai fait ou est-ce que ça ne l'a pas aidé. Tu peux je t'invite en tout cas à te poser ces questions-là dans ta façon d'orienter et d'accompagner tes enfants, Inch'Allah, que prendre soin d'eux et que les laisser un peu se débrouiller, ça ne fait pas de toi une maman méchante, inconsciente. Voilà, faut se détacher des jugements des gens. Une maman qui peut voir que ton fils n'a pas de serviette ou qui n'a pas de jet d'eau, je peux dire, oh, mais c'est quoi de cette maman, elle n'a même pas préparé son sac. C'est ok, ça lui appartient, c'est son regard, c'est sa perception de la maternité. Tu sais pourquoi tu le fais, ton enfant sait que tu l'aimes, alhamdoulilah, et il sait que c'est pour son bien, et tu verras que voir un garçon de 12-13 ans, une jeune fille de 12-13 ans qui sait préparer un sac, qui sait prendre ses affaires personnelles, qui sait ranger son sac, qui sait préparer une valise, qui sait préparer un départ, qui sait anticiper des choses, c'est très satisfaisant et ça leur donne énormément de confiance en eux. Ça peut être des personnes, eux, qui accompagnent, eux, qui aident parce qu'ils sont conscients et ça leur donne que de la confiance et ça nourrit leur estime. Donc, alhamdoulilah, c'est une bonne chose à faire. Continuez à le faire et c'est très responsable finalement, même dans notre spiritualité, de le faire. Donc, encourager nos enfants à être dans ce sens-là, dans ce process-là en tout cas. Ça demande du travail, ça demande certaines patience, ça demande de s'écouter. Vraiment, toutes les clés qu'on a citées avant, elles ont besoin de passer, elles ont besoin d'être mobiliser, utiliser pour pouvoir arriver à cette clé-là. C'est-à-dire que si vous n'apprenez pas à vous écouter, à écouter votre petite voix qui vous dit non, laisse-le se prendre des remarques quand il oubliera son sac et dis-toi non, dis-toi oui à toi et dis-lui non à lui. Aimer sans tout permettre, c'est-à-dire montrer que avoir de l'amour, c'est mettre un cadre et de la fermeté. Quand vous allez apprendre que cette patience-là, elle doit être dosée, c'est-à-dire que je vais patienter, je vais encore prendre sur moi et aller déposer le sac, c'est pas de la patience, c'est subir, encore une fois. Et quand vous allez enfin comprendre que la compassion, elle a ses limites aussi, c'est-à-dire je peux avoir de la compassion pour mon enfant, mais ça veut pas dire que je viens le sauver de ses émotions, que je viens lui retirer ses émotions pour pas qu'il les ressente, non. Avoir de la compassion dans la façon de le réconforter, dans la façon de l'accompagner, de l'écouter, mais je vais pas lui éviter certains ressentis ou certaines émotions. Et c'est ce qui va me permettre d'arriver ensuite à prendre soin de mon enfant. Ce n'est pas forcément faire tout à sa place ou lui éviter certaines souffrances au quotidien, ou certaines épreuves, ou certaines confrontations, ou conflits ou échecs, en tout cas au quotidien. Voilà, c'est tout pour moi pour ce podcast-là. J'espère que ça va vous être utile, Inch'Allah. On se retrouvera dans la prochaine clé, Inch'Allah. L'avant-dernière clé, en tout cas pour cette série-là. Là, j'espère qu'elle vous sera vraiment utile et que vous pourrez passer à l'action. Je vous rappelle que vous pouvez toujours réserver un appel diagnostic pour aller un peu plus loin dans votre travail, dans un accompagnement personnalisé. Bientôt, Inch'Allah, dans quelques jours, Inch'Allah, je vais ouvrir l'accès à toutes mes formations. C'est une demande qui a été très souvent faite, même dans les appels. Vous me dites souvent, voilà, j'ai regardé, j'ai écouté ton podcast, mais je n'ai pas trouvé tes formations. Elles n'étaient pas accessibles. Maintenant, suite à énormément de demandes, j'ai décidé d'ouvrir l'accès à ces formations-là. Donc, vous les aurez. Vous aurez accès à toutes les formations là, Inch'Allah, toujours sous le podcast. Il est là, donc vous pouvez vous former en autonomie, en autodidacte, pour celles qui n'ont pas pu franchir le pas d'investissement sur l'accompagnement personnalisé. Si ce n'est pas le moment pour vous, en attendant, vous pouvez travailler de façon très autonome et autodidacte. Et alhamdoulilah, il y a eu des très bons résultats juste avec des formations aussi en autonomie, même si bien évidemment, c'est pas le même travail, mais c'est toujours dans le fait de comprendre l'enfant et votre mission en lien avec la spiritualité. Toutes mes formations sont liées à la spiritualité et à l'enfant et à la spiritualité, et à la maternité, à la spiritualité et aussi à l'adolescence et la spiritualité. Vous allez avoir une formation sur l'adolescence que vous n'avez peut-être pas jamais écoutée encore. Il y a eu déjà une première promo, entre guillemets, promotion pardon, de cette formation-là. C'est créer une relation, renouer ou rétablir une relation avec son adolescent grâce à la spiritualité, grâce au chemin spirituel. C'est vraiment dans le but de vous donner une nouvelle perception, des nouvelles lunettes et un nouveau regard sur l'adolescence en tant que parent musulman. L'iceberg de l'enfant et l'iceberg de l'adolescent également, des masterclass sur comment transmettre l'éducation spirituelle à nos enfants et aussi la fabrique des ateliers. Alors on est beaucoup axé en ce moment sur l'éducation sexuelle, je vous invite vraiment, vraiment à rejoindre cette fabrique-là, des ateliers-là. Vous avez tous les ateliers en replay, donc ça vous fait presque une formation. On arrive à 5 ateliers, alhamdoulilah. Toujours des sujets très enrichissants. On continue cette semaine ou ce mois-ci, Inch'Allah, pendant le Ramadan, avec un dernier atelier, Inch'Allah, je pense. Sauf si encore d'autres questions refont surface, Inch'Allah. Mais en tout cas, voilà, le but, c'est de créer un lien régulier, de s'entraîner, de se retrouver entre mamans, pour pouvoir, Inch'Allah, évoluer et répondre à des questions et s'outiller surtout au quotidien quand on est démuni face à des situations aujourd'hui avec nos enfants. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous mettrai tous les liens, Inch'Allah, sous le podcast là. Qu'Allah vous préserve. Pensez à moi dans vos invocations. Et Ramadan Mubarak Karim. Taqabbal Allah minna wa minkum salih al-a'mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.